L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enonguet.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous êtes à l'écoute de Classico sur volume 3, le rendez-vous par excellence de l'économie, de l'entrepreneuriat et d'innovation sur la fréquence 87.9. Voilà, il est temps de recevoir notre passager du jour. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit.
Notre passager du jour est titulaire d'une licence en technologie, option génie industriel et maintenance obtenue à l'IUT de Douala. Son entreprise se positionne comme un acteur clé de l'économie verte au Cameroun. Il a développé des machines pour transformer le plastique et il arrive à partir de la transformation de ces plastiques à produire du carburant. Classico a le plaisir de recevoir Kamwa Tebe Constidilan, promoteur de Green Build Sarl. Bienvenue à bord.
Le passager du jour dans Classico.
Je suis tout le temps particulièrement contente lorsqu'il faut parler d'économie verte dans ce programme parce que c'est pas des profils qu'on rencontre à tous les coins de rue et pas vraiment tous les jours. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Consti Kamwa. Bonjour.
Bonjour Nadine. Bien. Bonjour également à toute l'équipe en studio et aussi grand bonjour à tous vos auditeurs. C'est un grand plaisir d'être ici sur Classico, cette émission de référence et surtout sur les antennes de volume 3.
Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler aujourd'hui de votre secteur d'activité et Green Build Sound. C'est une entreprise qui naît en 2024, si je ne me trompe pas.
Effectivement.
Pour fabriquer des machines à usage écologique. Moi, je n'ai pas compris. Machine à usage écologique, c'est quoi? Il y a des machines qui ne sont pas à usage écologique.
Machine à usage écologique. Tout simplement, comme le nom l'indique, c'est que la machine a deux sens. Le premier, c'est écologique à cause du système de transformation qui est le plus écologique possible, c'est-à-dire moins de production de CO2, c'est-à-dire également moins d'émissions de gaz. Et également à cause du rendu, c'est-à-dire ce qu'on obtient à la fin comme produit, qui sont des produits généralement utilisés pour réduire ce qui se fait aujourd'hui en termes de consommation et en termes également de production de CO2.
D'accord. Si également j'ai bien fait mes devoirs dans ce projet, vous êtes associé à Boris Tinda.
Oui, associé à Boris Tinda qui aujourd'hui est responsable technique de la start-up.
Qu'est-ce qui vous pousse à vous mettre ensemble?
Boris Tinda, c'est un camarade depuis la première année à l'UT Douala. Mm-hmm. Nous avons eu plusieurs projets, d'abord en DUT et ensuite en licence que nous avons soutenu ensemble et que nous avons, par le fil du temps, eu des objectifs communs, celui de bâtir notamment une start-up qui allait dans le sens d'une implémentation beaucoup plus entrepreneuriale de ce projet qui était académique et semi-professionnel.
Bah, vous auriez pu être des camarades de fac et avoir des points de vue divergents pour le monde professionnel. Est-ce que c'était si évident que ça, que c'est lui que vous auriez comme partenaire?
Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais l'intérêt est que la vision qu'on avait, c'était qu'au-delà de l'aspect académique, parce que nous sommes tous deux, je suis major de ma promotion et lui, il vient tout juste en bas. Et nous avons eu cet instinct-là de se dire, OK, après le côté académique, et si on passait à quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le plan professionnel? Okay. Et c'était lui le seul qui était disposé à sortir d'une théorie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pratique et surtout qui pourrait engendrer des revenus. Donc, nous sommes mis ensemble et voilà aujourd'hui, vous avez Green Build Sarl.
Bah, comment se met en place cette collaboration? Qui a le... C'est quoi? C'est vous qui venez avec le projet, vous lui en parlez, vous mettez en commun vos différentes visions. Comment ça se fait concrètement et puis vous décidez de créer l'entreprise tous les deux?
Voilà la petite histoire, c'est qu'en licence à l'UT de Douala, il y a ce qu'on appelle des projets tutorés ou bien des projets professionnels qui font l'objet de soutenance en fin d'année.
Oui.
Et bien, c'est de cette initiative là que nous avons décidé tout d'abord de prendre ce projet comme un projet académique. Mm-hmm. Donc Tinda et moi nous sommes dit ok, voici un projet que nous avons pensé. Je me rappelle encore de ça pour la petite anecdote, c'est que nous étions assis à l'amphi 200 de l'UT de Douala et nous disions, parce qu'en deuxième année déjà nous avions eu à faire un projet similaire mais qui était beaucoup plus pour la transformation de déchets plastiques en matériaux de construction. Mm-hmm. Et cette fois-là assis en salle dans l'amphithéâtre 200 de l'UT de Douala, nous sommes dit, et si nous pensons plutôt à transformer les mêmes déchets plastiques en un autre produit tout aussi consommé et tout aussi désirable, et on parle ici du carburant. Mm-hmm. Et l'idée nous est venue ainsi. Tout d'abord, nous avons pris ça tout simplement comme une anecdote, comme un petit moment de plaisir, mais par la suite, nous sommes dit, et si on faisait des recherches, et si on essayait? Ce que nous avons fait, et en troisième année, licence à l'UT de Douala, ingénieur industriel et maintenance, nous sommes dit, nous allons mettre en application ce projet que nous avons pensé. Nous avons étudié, nous l'avons proposé, il a été accepté, il a été validé, et nous l'avons soutenu, et la mention a été donnée. Donc, nous sommes dit, passons à autre chose, implémentons cela à une échelle plus grande.
D'accord. Et donc, vous êtes ce qu'on appelle mécanicien industriel.
Mécanicien industriel.
Quand on est mécanicien industriel, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on connaît mécanicien des voitures. Mécanicien industriel, lui, c'est quoi ses missions ?
Il est vrai que globalement, c'est d'abord maintenancier industriel. D'accord. Mais nous sommes beaucoup plus orientés mécanicien industriel, comme vous avez dit, puisque nos machines sont beaucoup plus mécaniques et bien sûr, avec d'autres aspects de l'industrie, que ce soit l'électrotechnique et autres. Mais lorsqu'on parle de mécanique ou bien de mécanicien industriel, c'est tout d'abord dans ce sens-là qui consiste à se dire toutes les machines que nous produisions doivent avoir une exploitation industrielle, c'est-à-dire une échelle assez importante. Ça, mm-hmm. c'est d'abord d'un. Et de deux, maintenant, c'est que nous devons être en mesure d'assurer l'entretien. Et c'était une chose vraiment essentielle pour nous, c'est que sur le plan local, est-ce que nous pouvons assurer l'entretien des machines que nous produisons? Mm-hmm. Donc, voilà les deux mots-clés qu'il faut retenir lorsqu'on parle de mécanicien industriel.
C'est si facile que ça de fabriquer ces machines localement, entre matières premières, confection et tous les autres aspects que je suis sûr que je n'entrevois pas, parce que ce n'est vraiment pas mon métier.
Oui, je comprends très bien. Eh bien, c'est intéressant que vous dites ça, parce que le plastique, on le voit partout. Marché, supermarché, quartier, le plastique est vraiment partout. Mais en termes plus précis de chiffres, le plastique, c'est 600 000 tonnes de déchets. Le Cameroun, c'est 6 millions de tonnes de déchets, mais le plastique, lui, représente 600 000 tonnes, donc soit 10%. Et plus étonnant encore, seul 1% de ces déchets sont recyclés. Mmh. Donc, en termes de matières premières, nous sommes assez confortables pour dire que nous en avons assez et que nous avons une large exploitation dans ce sens-là. Déjà, ça, c'est d'un. En termes de machines, maintenant, c'est clair, ce n'est absolument pas facile parce que dépendant des caractéristiques que les clients ont et surtout de leurs besoins, mmh. notamment en termes de taille, en termes de spécificité ou encore même en termes de volume de production. Donc, tous ces paramètres-là, nous, à Greenbusa, nous avons réussi à les adapter, notamment en créant des équipes autonomes. Nous avons plusieurs départements, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau de la conception ou même de la fabrication. Et nous n'allons pas également nier le fait que nous sommes en partenariat également avec d'autres start-up qui nous aident dans le développement de nos activités.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites des machines en fonction des besoins des PME?
Exactement, en fonction des besoins des PME.
D'accord, mais quand même, il y en a quelques-unes que vous avez déjà fabriquées et que vous exploitez sur votre site.
Exactement, nous avons quelques-unes que nous exploitons sur site et même d'autres que nous avons fabriquées et qui sont aujourd'hui utilisées dans la sous-région.
Mm-hmm. Oui. D'accord, justement, parmi les machines que vous avez à disposition et qui vont permettre de faire la transformation du plastique, de ce que j'ai pu voir un peu, les noms là étaient compliqués à moi, du coup il faut qu'on répète ici aujourd'hui pour le commun des mortels.
D'accord.
Dans lesquels vous avez sur site et c'est quoi leur fonction?
D'accord, actuellement les machines qui sont en cours de réalisation, nous en avons trois. Mm-hmm. Sur site, nous avons tout d'abord le pyrolyseur distillateur. Le pyrolyseur distillateur, c'est tout simplement la machine qui permet le procédé de transformation des déchets plastiques en carburant.
D'accord.
Le carburant, c'est vrai, il y en a plusieurs types, que ce soit diesel, gazole, mais le pyrolyseur déjà, c'est la machine mère qui permet et assure cette transformation-là. Mm-hmm. Ça, c'est la première machine.
Okay.
La deuxième machine, c'est la déchiqueteuse densifieuse. Mm-hmm. Le plastique, lui, il est volumineux, c'est-à-dire tout simplement qu'il prend ou bien occupe beaucoup d'espace, mais en termes de masse, il n'est pas vraiment considérable.
Okay.
Donc le défi ou bien la réalisation que fait cette machine, c'est surtout de densifier le plastique, c'est-à-dire réduire ce volume et lui donner beaucoup plus de masse.
D'accord.
Ainsi, on a une large quantité de matière première qui est utilisable et surtout pour un volume qui est peu occupé. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la deuxième machine. Et la troisième machine maintenant qui est tout aussi intéressante, c'est aujourd'hui la gazifieuse.
D'accord.
La gazifieuse, c'est celle-là qui permet d'obtenir la transformation des déchets plastiques en un combustible. Intéressant, c'est que le combustible est par la suite utilisé dans des foyers spécialisés qui sont conçus par nos équipes.
Okay.
C'est installé dans ce foyer spécialisé là, il permet de produire du gaz domestique qui est ensuite utilisé dans les ménages et dans tous les autres milieux de restauration et où ses besoins en énergie sont nécessaires.
D'accord, justement on va rester sur cette partie transformation de déchets là. C'est, on va dire quoi, dans les grandes lignes, tout part du plastique, mais est-ce que c'est tous les plastiques, tous les types de plastiques? Parce qu'on a le petit nylon là, dans lequel on emballe les trucs, c'est du plastique. On a les bidons, on a des, dans tous les différents, je sais pas s'il faut des différents types de plastique ou formes de plastique, lesquels vous transformez finalement ou c'est, tout est bon?
La question intéressante, c'est que au départ, nous nous disions également comme vous, au tout début de nos recherches, au tout début de la start-up, c'est que nous avons 600 000 tonnes, donc tout type de plastique sont inclus dans les 600 000 tonnes. Donc nous allons travailler, nous allons exploiter tout cela, mais intéressant, il y en a plusieurs types. Les PET, qui sont les PET, si vous voulez, les polyéthylènes, et nous avons les polypropylènes aussi, les PP. Mm-hmm. Nous avons PET, nous avons PP, nous avons PE. Et les PET, par exemple, qui sont des plastiques durs ou bien durcissables, comme les bouteilles plastiques. Également aussi, vous pouvez avoir des contenants plastiques. Mm-hmm. La difficulté avec ceux-là, c'est qu'ils ne sont pas véritablement productifs ou bien efficients dans la production. Okay. Surtout en termes de rentabilité, ils sont assez bas. Mm-hmm. Donc, vous voyez donc qu'on est limité ou bien réduit à ces deux types de plastiques qui sont les PP et les PE. Principalement.
D'accord.
Oui, nous avons, c'est vrai qu'il y a moins de densité, mais je ne vais pas entrer dans la technicité.
Ça va être compliqué pour nous tous.
Vraiment sur ces deux-là, oui.
D'accord. Aujourd'hui, ça se passe donc comment pour avoir les différents plastiques que vous transformez? Parce qu'il y a le volet, oui, cette matière-là, on se dit que c'est des ordures, mais on sait qu'on vient de lancer également la Bourse nationale des déchets et que la bataille va déjà être compliquée. Il y avait déjà ceux qui achetaient pour ci ou pour ça. Mm-hmm. En attendant qu'on arrive véritablement sur la bataille des déchets plastiques pour qui peut mieux acheter, comment est-ce que vous vous approvisionnez aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est intéressant, c'est qu'il nous fallait tout d'abord une licence d'exploitation parce qu'au Cameroun, c'est bien régulé. Les déchets sont bien sûr bien régulés par la loi. Donc, vous ne pouvez pas tout simplement vous lever un matin et dire « je vais exploiter tout type de déchets » ou bien commencer à utiliser tout type de déchets. Donc, la première chose que nous avons essayé de faire, c'est nous rapprocher de la mairie. Mm-hmm. Nous sommes déjà entrés en contact avec l'un des conseillers municipaux, notamment la mairie de Bonabéry, de Douala 4e. Mm-hmm. Donc, actuellement, ce que nous faisons, c'est que les CRI, durant les sessions qui sont organisées de campagne de ramassage de déchets plastiques, nous allons justement vers ces sections-là pour récupérer les déchets qui sont accumulés, qui sont ramassés. Nous faisons également des cris et des passages dans des ménages aujourd'hui pour collecter. Et avec nos équipes, nous faisons donc la collecte, le cri, ensuite le nettoyage même de ces déchets plastiques-là que nous réutilisons par la suite. Mais je tiens juste à préciser que cela est beaucoup plus en termes expérimental parce que nous produisons plus de machines que nous-mêmes nous produisons de produits.
Oui.
Mais pour bien montrer l'efficience de nos machines, il faut bien que nous-mêmes nous soyons des utilisateurs.
Bah justement, c'est plus expérimental, mais est-ce qu'on ne va pas avoir, au fur et à mesure que vous montrez que c'est possible, plus de demandes de ce côté-là? Parce que si vous dites que oui, le plastique qui est le déchet, on peut avoir du gaz domestique, on peut avoir plusieurs, je ne sais pas s'il faut dire, types de carburant. Est-ce qu'on ne tend pas à vous emmener beaucoup plus dans cette direction-là aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est vrai, je pourrais dire ça, parce que voyez-vous, le deuxième contrat que nous avons eu l'année passée en 2025, c'était venu du Tchad. Mm-hmm. C'était Almirey Group, c'est un groupe tchadien également qui fait dans des activités caritatives. Donc, ce que Almirey Group voulait, ce sont des machines qui puissent être utilisées, qui puissent être données à des femmes, que ce soit des femmes qui sont des veuves ou bien encore dans des cités communautaires qui auront besoin de ce type d'énergie-là. Mm-hmm. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont dit, d'accord, nous avons vu vos vidéos, nous avons vu vos produits, nous voulons voir exactement comment est-ce qu'ils fonctionnent et nous assurer que le volet sécurité, le volet conformité également est respecté. Donc, ce que nous avons fait, nous avons produit ces machines-là, nous sommes arrivés là-bas, mais nous ont ensuite demandé, c'est là que ça devient intéressant, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider dans le processus de production? Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, nous faisons également, au-delà de la production des machines, l'accompagnement vers la production même des revenus ou bien du produit qu'on obtient à la fin.
D'accord.
Donc, effectivement, nous pouvons tout à fait nous diriger vers ce sens-là.
Donc, votre ambition, c'est plus d'accompagner les gens pour qu'ils puissent produire eux-mêmes et pas vous devenir producteur de carburant et de gaz.
Exactement. Mais comme je vous l'ai dit, l'opportunité qui pourrait s'offrir, nous sommes toujours prêts à aller également vers le sens de la production. Mais pour l'instant, nous sommes focalisés et beaucoup plus concentrés sur la conception et la réalisation de ces machines.
D'accord. Justement, pour la conception et la réalisation de toutes ces machines-là, comment est-ce que ça se passe? On prend des... Comment on va dire ça? On fait la conception de A à Z où on s'inspire des modèles qui sont déjà existants et on modifie juste, je ne sais pas s'il faut dire, les mécanismes pour que ça devienne écologique ou bien c'est ça pour sa création, même si on va dire qu'on ne crée rien.
Donc, je comprends très bien la question, c'est intéressant. Effectivement, je voudrais dire qu'il y a des modèles déjà existants, mais l'intérêt que nous apportons ou bien la plus-value que nous apportons, c'est surtout au niveau de comment est-ce que nous pouvons, un, contextualiser ces modèles-là par rapport à notre territoire. C'est-à-dire, par exemple, les types de déchets plastiques que nous avons ici ne sont pas textuellement les mêmes. Et nous avons également le fait que le type de production ou bien le produit que nous utilisons sont généralement différents.
Okay.
Donc, ce que nous sommes dit, c'est est-ce que nous ne pouvons pas apporter une plus-value en essayant de modifier ces machines-là et d'y apporter encore plus sur le plan technologique afin que ce soit beaucoup plus adaptable, beaucoup plus confortable pour l'utilisateur et surtout beaucoup plus efficient et productif. Donc c'est pour cela que vous avez des machines qui sont utilisées aujourd'hui par la simple ménagère, nos foyers spécialisés,
mm-hmm.
qui est très adaptable et très facile sur le plan pratique, qui lui permet de faire ses cuissons, sa cuisson de manière tout à fait autonome et tout à fait facile. Donc ça, c'est le premier plan. Également, nous avons aussi pensé à l'aspect coût, qui est vraiment important. Ailleurs, il y a des modèles existants, mais en termes de coût, qu'est-ce que ça représente? Essayer de commander la même machine en Chine et autres, vous comprenez que ça devient beaucoup plus compliqué pour le panier de la ménagère et même pour tout simplement le pouvoir d'achat de nos différents clients. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé à plus, comment transformer cela pour l'adapter à notre contexte en apportant une plus-value technologique que nous avons eue dans nos études et surtout dans notre façon de voir ce que devrait être aujourd'hui la technologie pour l'Afrique.
D'accord, je concentre un peu sur ce foyer spécialisé à destination des ménages. C'est le fait que vous produisiez déjà du gaz et des carburants avec le plastique qui vous a poussé à développer ce foyer-là?
Effectivement. Plus intéressant, c'est le fait que nous avons eu beaucoup de temps. Si je peux dire, je vais appeler ça, je ne vais pas dire une perte de temps, mais je vais dire beaucoup, nous avons pris beaucoup de patience avec Y parce qu'il fallait ici assurer la conformité des produits qui étaient obtenus par nos machines. On parle de carburant, mais est-ce que c'est un carburant directement utilisable? Est-ce que nous avons la licence déjà pour vendre ce carburant? Donc, toutes ces contraintes-là nous ont permis de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une solution qui est déjà applicable à l'instant, qui va permettre déjà de se déployer sur le terrain et
sans dépendre des autorisations.
Sans dépendre du tout de tous ces éléments-là. Donc, nous avons directement pensé à nos foyers écologiques. Nous avons testé, nous avons appliqué, nous avons révisé et nous avons également vu que ça se faisait aussi ailleurs, ça il faut le dire, mais l'intérêt que nous avons eu, c'est que le produit qui était utilisé comme combustible ailleurs, ça générait des produits toxiques ou bien dégageait des gaz toxiques qu'on appelle acides aromatiques. Et nous avons essayé de nous dire, est-ce que nous ne pouvons pas aller dans ce sens pour développer mieux ce produit afin de le rendre plus vendable, mais aussi et surtout conforme et sécurisé. Donc c'est ce que nous avons fait, nous avons testé donc le dernier produit et c'était impeccable. Et aujourd'hui, nous restons toujours dans la R&D, c'est-à-dire la recherche et le développement par rapport à ces produits-là, mais nous pouvons vous assurer que, et Peter, qui sait, vous aurez l'opportunité d'essayer ce produit-là et vous pourrez vous-même constater de l'efficacité. Donc voilà.
D'accord, donc c'est un foyer spécialisé qui fonctionne au gaz que vous produisez, c'est ça?
Oui, qui fonctionne le produit qui permet de recevoir un produit dans son réservoir qu'il convertit à partir d'un système intégré en gaz domestique.
Ça m'a l'air lourd quand j'entends qu'il reçoit un produit qui permet de...
Et c'est ça le génie.
Visuellement, j'essaye de voir.
Exactement. Vous voyez quelque chose de tout de suite encombrant, tout de suite très lourd. Et c'est ça un peu le génie chez Greenpulse. C'est qu'on veut tout rendre plus facile, même ce qui semble très complexe. Donc, vous verrez tout simplement que ce foyer-là ne pèse même pas plus de 10 kg. Et même en termes d'encombrement, vous verrez également que la taille est tout à fait confortable. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer tout de suite dans votre cuisine, dans un coin, et vous pouvez cuisiner et tout à fait le retirer par la suite sans besoin même d'aide ou bien sans besoin de vous tracasser. Donc, ce foyer-là, il est très autonome, très adaptable et très confortable pour nos clients.
D'accord, sans aucun garantie, sans aucun danger, même s'il y a un procédé de transformation du gaz et qui, on va dire quoi, pour l'aspect sécurité, parce que ça reste quand même des produits inflammables.
Effectivement, l'aspect sécurité a été considéré le plus parce que tu as beau vendre, mais si tu es pour vendre pour tuer, ça devient beaucoup compliqué. Donc l'aspect sécurité était en cela que nous avons mis un dispositif qui fait une séparation nette entre le système de transformation de nos combustions de ce produit-là en gaz domestique et le réservoir qui accueille le combustible inflammable. Donc, c'est séparé, net et conditionné de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas à se soucier du mélange ou bien du système de production de son gaz. Si est-ce qu'il va exploser ou bien est-ce que je serai brûlé? Non, tout cela est inclus dans la sécurité que nous promettons à nos utilisateurs. C'est pour cela que nous donnons d'ailleurs une garantie de une semaine pour l'utilisation afin d'éviter tout désagrément.
D'accord, justement, ça veut dire que si votre foyer est conçu pour recevoir ce produit-là, ça veut dire que vous êtes le fournisseur par excellence du combustible pour chaque ménage qui adopte votre solution.
Exactement. Pour l'instant, c'est vraiment ce pour quoi on veut se diriger. Mais nous sommes en partenariat avec notre start-up EcoFuel qui, avec ce partenariat, nous avons décidé de leur donner le droit ou bien encore de travailler avec eux pour la production de ce combustible-là, pendant que nous serons concentrés plutôt sur la production des foyers.
D'accord, mais ça reste un partenariat où chacune des parties impliquées réussit à tirer son épingle du jeu.
Effectivement.
Voilà, puisque chacune des parties réussit à tirer son épingle du jeu, dans la deuxième partie, on va véritablement parler de coûts pour l'entrepreneur et pour les différents ménages. On va souffler un tout petit peu, à tout de suite.
Le passager du jour dans Classeco.
Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, Classeco se poursuit. On entame la deuxième et dernière partie de notre échange avec notre passager du jour, Consti Kamwa, promoteur de Green Build Africa. Green Build ça, pourquoi Africa? Peut-être qu'Africa aussi, parce que vraiment, c'est pas si faux que ça. Donc voilà, on parle depuis le début, c'est écologie, c'est économie verte, tout ce qui tourne autour de ça, transformation de déchets plastiques également, qui est possible. Maintenant, on va parler d'argent, parce qu'on va parler d'entrepreneuriat et ne pas parler d'argent. Du coup, aujourd'hui, déjà, combien de vous produisez des machines pour des entreprises camerounaises également qui vous sollicitent, ou c'est plus dans les autres pays de la sous-région ou bien de l'Afrique?
Pour l'instant, nous avons eu exactement 2 clients ici même au Cameroun.
D'accord.
Mais beaucoup plus dans la zone, dans la sous-région, notamment avec le Tchad, notamment avec le Congo.
Mm-hmm.
Mais nos clients sont le plus ancrés vers la sous-région.
D'accord. Comment ça se passe? C'est vous qui allez vers eux? C'est eux qui vous découvrent et qui font la démarche de venir vers vous? Ou bien c'est en faisant X ou Y projet, c'est plus la recommandation?
Ce qui se passe, c'est que la plupart de nos projets sont postés en ligne. Nous avons des réseaux sociaux, nous avons également des partenaires tels que l'ambassade de France, mm-hmm. tels que l'agence universitaire de la francophonie et bien d'autres partenaires qui nous suivent
mm-hmm.
et nous recommandent donc dans leur page et même aussi avec leurs partenaires. Donc nous avons eu par exemple le premier contrat ou bien le deuxième contrat que nous avons eu en 2025 venait d'une recommandation
mm-hmm.
parce que le client a vu la vidéo, il a apprécié le prototype et il s'est dit d'accord, et si mm-hmm. j'ai réussi ça à les contacter et à avoir le numéro. Donc, la dernière fois, nous avons eu à faire la même chose avec un reportage avec un magazine bien connu. Et aujourd'hui, pourquoi pas, étant ici là même avec Volume 3, peut-être ça serait une autre opportunité pour nous.
Sait-on jamais.
Ne sait-on jamais.
Donc, ce qui veut dire que, au-delà des prototypes que vous avez sur votre site, vous ne produisez que s'il y a la demande?
Effectivement, nous produisons surtout s'il y a la demande. Parce que nous voulons limiter le stockage.
Mm-hmm.
Nous préférons beaucoup plus aller vers une production sur demande que vers une production intensive qui pourrait tout simplement générer des coûts. Parce que ce qui est sûr, comme nous disons à maintenant, stocker, c'est aussi entretenir. Entretenir, c'est aussi des dépenses.
D'accord. Justement, ça prend combien de temps en fonction de la machine qui vous est demandée pour la production et jusqu'à la livraison?
Il est vrai que donner un temps ici, ça serait tout simplement généraliser nos clients parce que chacun vient avec ses besoins, chacun vient également avec ce qu'il recherche en termes de vitesse et de productivité.
Mm-hmm.
Donc, le temps qu'il me faudrait pour avoir la machine de Nadine ne serait pas nécessairement le temps qu'il faudrait pour avoir la machine de Consti.
C'est plus une question des délais du client ou de la complexité de la demande?
C'est beaucoup plus une question de la complexité de la demande. Maintenant, ça peut aussi aller avec le délai du client parce que s'il y a complexité et qu'il y a également un délai qui s'impose par rapport au budget qui est donné,
mm-hmm.
nous pouvons également
considérer ça. On en revient au budget. Le budget, c'est la clé, ça peut tout débloquer.
Oui, l'uncap.
Non, c'est important, mais quand même, on va dire quoi? Si on est très lent, c'est quoi le délai, on va dire quoi? Le plus long ou le plus court, je ne sais pas.
Jusqu'ici, le délai le plus long, c'est un mois. C'est-à-dire 30 jours.
Pour une machine?
Pour une machine.
Et pour faire ça, il y a combien de personnes à la manœuvre?
Des personnes à la manœuvre, si je peux comptabiliser, entre l'équipe de conception-réalisation et l'équipe également de mise en application et tout le reste, je peux considérer quelque chose comme 27 à 30 personnes.
Quand même?
Oui, quand même.
Ce qui veut dire que chiffres, ça rigole pas. C'est quoi le coût minimum d'une machine qui vient de chez GridBuild?
Le coût minimum d'une machine qui vient de chez GridBuild, parce que je fais la part des choses, il y a les machines directement utilitaires comme nos foyers écologiques,
mm-hmm.
mais également nous avons aussi les machines beaucoup plus semi-industrielles ou bien industrielles comme nos pyrolyseurs, nos gazéfieuses et autres.
Mm-hmm.
Donc le coût minimal en termes de budget Pour nos machines telles que les pyrolyseurs et gazifieuses, nous partons dans des montants de 2,5 millions et 4 millions de francs CFA.
D'accord.
Mais le minimal serait véritablement 2,5 millions de francs CFA.
Donc minimum pour un pyrolyseur, il faut mettre 2,5 millions sur la table.
2 millions et demi sur la table pour avoir votre pyrolyseur ou bien votre gazifieuse. 2 millions et demi.
Et pour le foyer écologique?
Maintenant, pour le foyer, nous partons généralement sur 50 000 francs CFA.
Quand même.
Oui, mais ce qui est intéressant...
Dans 50 000 euros, on avait 20 litres de carburant, bien, c'est comment?
La partie intéressante, c'est que si, et c'est véritablement un problème que nous avons avec la mentalité camerounaise, entre guillemets, je suis aussi camerounais. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si vous voyez ça comme ça, ou bien si vous entendez juste le montant, vous dites, waouh, 50 000, c'est quand même beaucoup, il se croit. Mais en fait, si vous allez dans le sens du rapport qualité-prix, c'est là que vous comprenez véritablement quelle est la plus-value et pourquoi ce prix. Si, par exemple, je vous donne une illustration simple.
Oui.
Si vous voulez acheter une cuisinière à gaz, vous allez acheter la cuisinière à part et la cuisinière en elle-même va coûter quelque chose comme 50 000, peut-être plus. Ou bien peut-être un peu moins, peut-être 30 000, 40 000, mais on reste dans l'intervalle 30-50 000.
Okay.
Et maintenant, vous, ce que vous devrez faire, c'est que si vous voulez acheter une bouteille de gaz, il faudrait savoir que vous serez obligé d'acheter d'abord le contenant, c'est-à-dire la bouteille de gaz même, avant ensuite d'inclure le fait qu'à chaque fois, il va falloir que vous allez pour faire une recharge et acheter une autre bouteille.
Oui.
Exactement. Mais lorsque vous prenez par contre notre foyer spécialisé, ça vous donne l'avantage, un, du fait que nous avons un réservoir. Vous n'avez pas besoin d'acheter une bouteille de gaz.
Okay.
Le réservoir est déjà considéré. Et en plus de cela, ça donne le fait qu'en comparatif au gaz domestique, qui est de 6 500 francs, mais tenez-vous tranquille, sans subvention de l'État, ce serait à 11 500 voire 12 500 francs CFA. Mais nous proposons pour la même quantité, c'est-à-dire 12,4 kg, un prix de 4 000 francs CFA.
Ah, donc le réservoir qui est dans le foyer écologique, c'est exactement quoi, la même quantité qu'une bouteille de gaz?
Le réservoir est conditionné aussi selon la capacité que vous voulez avoir.
D'accord.
Mais ce que je dis, c'est que par rapport à la quantité que vous avez lorsque vous achetez une bouteille de gaz conventionnelle, nos quantités sont les mêmes. Et en termes de durée, les mêmes aussi, après les tests que nous avons faits, mais pour un montant beaucoup plus réduit.
Donc, on achète 12 kilos de votre solution à
4 000 francs CFA.
À 4 000 francs CFA. Quand on achète comme ça, on peut utiliser ça même 8 mois, non?
Bon, ça dépend. Si vous préparez le compte chaque tous les jours, attendez-vous à ce que ce soit juste quelques jours. Mais en réalité, c'est que si vous avez cette contenance-là et que vous allez de façon rationnelle, nous prévoyons également pour 5 litres de nos produits une consommation générale de 12 heures.
D'accord.
Pour 5 litres.
Ok.
Oui. Donc, si vous allez de façon rationnelle, ça veut dire que pour exactement 22 litres, en faisant ce ratio-là, vous serez à quelque chose comme 12 fois 4.
Et ma mathématique, ça va, mes amis. Même c'est mal le 12 fois 4 là, c'est dur. Il faut qu'ils commencent à réfléchir. Cela, je refuse.
Donc, vous avez exactement cela. Donc, voilà, rapport qualité-prix, beaucoup plus que tout simplement la frayeur de voir le chiffre.
D'accord. Et après, dès que ça finit, on vous contacte, il faut venir livrer doucement ou bien il y a une procédure aussi.
Dès que ça
Parce que
finit...
si vous n'en produisez pas, puisque ce n'est pas votre métier premier, bon, ou peut-être avec le partenaire, ça va devenir beaucoup plus simple.
Exactement. Avec EcoFuel, ça devient beaucoup plus simple parce que dès que ça finit, vous avez contact direct avec EcoFuel qui se charge de vous approvisionner.
Ça, c'est déjà sur le plan pratique possible?
Ça, c'est déjà sur le plan pratique possible, mais bien sûr, avec le fait que nous soyons limités par le financement, qui fait que les quantités ne sont pas encore importantes. Il faut bien le dire.
D'accord. Ok, donc on va parler maintenant de la rentabilité aussi, quand même. En produisant, vous avez dit que vous avez eu deux commandes pour l'année dernière au Cameroun, dans d'autres pays. Quand même, vous réussissez au-delà de remporter des compétitions à côté et qui vous ramènent un peu de cash aussi à vous en tirer?
Tout à fait. Très intéressant même d'ailleurs, c'est que pour la première année de la start-up, nous avons eu un chiffre positif en termes de rentabilité, ce qui est assez rare. Mais je peux dire que c'est aussi par la grâce de Dieu. Je tiens à dire ça parce que pour une première année que nous tombons sur deux contrats successifs qui nous permettent de faire d'une grande livraison. Mais en termes de rentabilité, la difficulté a été qu'au début, pour avoir déjà le prototype idéal, c'était énorme en termes de coûts et tout ça, de révision et tout le reste. Mais une fois que vous avez le modèle typique...
Oui.
La reproduction devient beaucoup plus facile.
D'accord.
Ce qui fait que si nous avons eu, par exemple, le contrat avec Almirec, qui avait un pyrolyseur distillateur, c'était un contrat sur 4 millions de francs CFA. Nous avons eu pratiquement, en termes de coûts et de charges, nous étions à 2 500 000 francs CFA. Et s'il faut encore voir peut-être tout ce qui était comme imprévu, nous pouvons aller à 2 800 000 francs CFA.
D'accord.
Donc, vous pouvez imaginer ce que ça coûte, ce que ça vaut en termes de rentabilité.
Donc,
ça
veut dire que toutes les fins de mois, vous, votre associé et les 27 collaborateurs, ça va, on n'est pas en mode grincement de dents.
Par la grâce de Dieu, nous sommes tranquilles.
Jusqu'ici.
Jusqu'ici.
On va souhaiter que ça continue à se passer comme ça. Maintenant, je veux qu'on parle un tout petit peu de... Parce que vous faites du carburant, bon, même si ce n'est pas l'activité première, sur place. Est-ce que quand vous l'avez produit, on le conserve sur place? Dans quelles conditions? Avant que, bien entendu, ça arrive chez ceux qui sont des utilisateurs de votre foyer.
Ce qui est intéressant, c'est que pour la conservation, bien sûr, vous pouvez le faire avec des récipients vitrés.
Okay.
Nous avons aussi de l'inox qui permet d'éviter qu'il y ait des éléments qui s'introduisent dans le carburant. Mais la conservation est plutôt assez facile.
D'accord.
À partir du moment où vous assurez que le matériau qui sert de conservateur est un matériau sécurisé, un matériau qui garantit qu'il n'y ait pas de mélange chimique, oui, la conservation reste assez facile. Donc pour cela, nous avons ce matériel-là qui est généralement de l'inox dans lequel nous conservons nos produits qui sont obtenus.
Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'incidence avec la chaleur et toutes les autres manipulations de fer et des machines qui chauffent tout autour. Il n'y a pas de risque.
Bien sûr, le magasin est tout à fait isolé du reste du site de production.
D'accord.
Donc, ça permet de faire en sorte que le contact que vous craignez tant, celui de la flamme ou bien d'une étincelle qui pourrait tout faire exploser, non, rassurez-vous, c'est bien restreint et bien isolé.
D'accord. Aujourd'hui, si éventuellement quelqu'un écoute et qu'il a besoin de vous contacter, de venir vous rencontrer, comment ça se passe?
Eh bien, vous avez tout d'abord notre partenaire aujourd'hui, EcoFuel, direct, avec qui vous pouvez tout simplement aller sur Facebook et taper EcoFuel et vous obtiendrez cela. Vous avez également nos numéros qui sont le 678 35 39 37. Oui. Vous avez également le 677 85 84 64 26.
Donc, tous ceux qui ont éventuellement besoin de X ou Y machine, vraiment, je pense que en discussion directe, vous pouvez mieux exprimer vos besoins et voir ce qui est possible d'être fait ou pas. Est-ce que au-delà d'avoir l'ambassade de France et tout ça qui ont reconnu un peu votre savoir-faire, vous avez déjà eu, en tant que des jeunes entrepreneurs, fait face aux doutes chez les autres? Est-ce que vous êtes, qui vous disent, est-ce que vous êtes vraiment capable de faire ce que vous dites que vous faites?
Absolument. Et c'est assez intéressant parce que plus vous êtes jeune, plus ce doute est permanent. Donc ça fait que c'est assez non seulement frustrant au début, mais surtout lorsque cela vous est dit et que vous voyez vous-même dans votre progression que vous êtes en train de déborder ces limites-là et ces préconceptions, toutes ces idées préconçues, vous vous dites « Waouh !» Finalement, ils ont tort, mais non seulement ils ont tort, mais je suis en train de prouver que c'est possible. Donc ça fait que, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans déjà, oui, et à ces 21 ans-là, avoir quelqu'un qui soit CEO ou bien promoteur d'une start-up, déjà, c'est tout à fait un défi. Mais maintenant, apporter à cela quelqu'un qui puisse avoir des marchés et tout cela, c'est pour ça que je continue à le dire. Il y a beaucoup la grâce de Dieu dedans. Et au-delà de la grâce de Dieu aussi, il y a beaucoup de détermination. Mais tout d'abord, la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que nous suivons le bon chemin et que nous sommes sur la bonne voie.
D'accord. Justement, sur l'aspect financement qui semble être un vrai goulot d'étranglement pour vous, pour l'activité et tout ça, au-delà d'avoir été bénéficiaire du programme Startup 237, ça je pense avec l'ambassade de France et l'agence universitaire de la francophonie, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment le moyen le plus simple de renflouer les caisses, on va dire, de remporter des prix ou d'avoir des subventions?
Il est vrai que je vous dirais en toute honnêteté, au tout départ, c'était vraiment l'essence. C'est-à-dire, c'est ça qui nous a permis le développement de nos activités.
De compétition en compétition.
De compétition en compétition. Mais sinon, si vous faites comme ça plusieurs fois, on va vous appeler compétiteur plus qu'entrepreneur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes dit, OK, nous avons remporté cette compétition au niveau universitaire, un peu aussi au niveau professionnel et entrepreneurial, mais est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Rechercher des financements extérieurs, privés, ou bien d'associations, ou bien d'organismes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ces dernières années.
Oui.
C'est-à-dire que nous sommes allés vers des organismes comme Artemis SA, avec qui nous sommes en train de collaborer actuellement ici. Artemis SA, c'est une VC firm, c'est-à-dire un capital risque américain basé ici au Cameroun qui recherche justement les startups. Nous sommes également allés vers Favis Maza, qui est aussi un peu dans ce sens-là, qui nous encadre.
Oui.
Donc, beaucoup plus nous sommes dit, il faudrait rechercher des investissements qui ne sont pas plus comme des motivations, mais plus comme des possibilités de scalabilité. C'est-à-dire d'aller beaucoup plus sur le plan de l'échelle et également beaucoup plus le plan infrastructure et tout ce qui est logistique pour agrandir nos activités. Donc oui, je reprendrai tout simplement en disant que l'aspect compétition et remporter les prix, ça nous a énormément aidé. Il faut vraiment être reconnaissant pour cela. Nous remercions l'ambassade de France, nous remercions l'agence universitaire de la francophonie, le fonds Proto et tous ces organismes-là qui ont eu à reconnaître notre travail, à nous encourager par des financements. Mais aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que si nous voulons véritablement être compétitifs, il va falloir penser au-delà de ces bourses-là ou bien ces récompenses-là, mais pensez beaucoup plus à entrepreneur. Entrepreneur, c'est prendre des risques de supporter des financements extérieurs, des financements privés, que ce soit par prêt ou bien que ce soit par actionnariat. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. C'est ce pourquoi aujourd'hui, nous travaillons.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt à céder des parts et tout ça. Il y a absolument pas de souci.
Absolument pas.
D'accord.
C'est mieux d'avoir, comme on dit souvent, quelques pourcents d'une grande chose que 100% de rien du tout.
D'accord, donc ça ne vous inquiète pas la partie perte de contrôle sur un projet que vous avez mis en place de bout en bout.
Disons que nous avons aussi des actionnaires qui sont assez féroces pour se dire que perdre du contrôle, peut-être pas vraiment perdre du contrôle, mais disons donner une possibilité justement à ces rêves que nous avons de grandir encore plus grand.
D'accord, justement, ce rêve de grandir là, on va continuer à le faire à Bonaberry, dans le petit coin que vous avez aujourd'hui, ou dans la logique d'expansion, il va y avoir une délocalisation?
Probablement dans la logique d'expansion, il se peut qu'il y ait une délocalisation parce que le côté Bonaberry, c'était beaucoup plus d'abord un site de conception et de test prototypage.
Oui.
Et maintenant, si on va aller dans un site beaucoup plus large qui consisterait à la production vraiment massive de machines, il faudrait bien sûr penser à un espace beaucoup plus approprié. Donc, effectivement, nous comptons nous exporter, mais par nostalgie aussi, par cet espace.
On va quand même garder cet espace.
On va quand même le garder, oui.
D'accord. Justement, on sait qu'au début, quand ça a commencé sur les bancs, il y avait justement la transformation de plastique en d'autres. On avait quoi, les pavés, les tuiles et tout ça. C'est complètement abandonné aujourd'hui, ou dans la logique d'expansion, on va forcément y revenir?
Il est vrai qu'aujourd'hui, ça reste une activité assez secondaire chez Green Boots House, ça c'est vrai. Mais nous restons toujours dans l'optique de ce que, dans le développement de ces travaux-là, notamment, surtout, la partie qui nous intéresse, c'est au niveau de la transformation de ces déchets plastiques-là, en carreaux.
D'accord.
Un carreau bien synthétisé et qui nous permettra de voir ce marché-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste une activité secondaire. Et une fois que nous allons mieux nous exporter vers les autres activités, mieux les développer, nous penserons à revenir pour approfondir nos recherches sur le développement de cette activité-là. Et pourquoi pas, comme vous l'avez dit, si l'opportunité s'ouvre, de voir encore une niche ou bien encore de voir une possibilité de se faire de l'argent à travers ça.
Les plastiques en carreaux, je sentais trotter dans ma tête. On a déjà quand même fait des tests pour voir ce qui est possible ou bien non, ça on va vraiment se concentrer quand on aura la tranquillité d'esprit que tout le reste est complètement mis en place.
Il est vrai que nous avons fait des tests, mais la difficulté a été plutôt dans la continuité de la recherche parce que les tests n'ont pas toujours été concluants. Mais la continuité de la recherche, nous ne l'avons pas pu le faire parce que nous avons d'autres activités autour qui étaient beaucoup plus florissantes et que nous avons voulu mener à terme.
D'accord. Pour sortir par là, quelle est la prochaine véritable étape que vous voulez atteindre avec Greenbuild?
Aujourd'hui, la prochaine véritable étape, c'est en trois volets. Très rapidement, le premier volet d'abord, c'est au niveau partenariat. Nous avons également beaucoup d'ONG, nous avons également beaucoup d'institutions même qui sont intéressées en ce qui concerne l'environnement. Nous avons aujourd'hui la SND30, la Stratégie Nationale de Développement, instituée par le Président de la République, qui insiste beaucoup sur le côté écologique, environnement et protection de la nature. Donc nous comptons et espérons que ces partenariats-là, nous pourrions les acquérir et aller plus vers ce sens. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce que nous visons également, c'est au niveau du financement, en espérant qu'on ait accès à des plateformes vraiment de référence comme cette plateforme-ci, Classico et même d'autres médias. Cela nous donne la possibilité d'avoir une grande visibilité et surtout d'avoir accès à ces personnes-là qui seront prêtes à investir pour voir ces rêves-là, mais pas que ces rêves, mais pour voir ici cette opportunité-là de transformer les déchets et de transformer tout simplement notre Cameroun. Et enfin, la dernière étape qui est aussi très crucial pour nous, c'est de voir aujourd'hui une équipe beaucoup plus solide, beaucoup plus encadrée par des aînés qui ont eu à passer par le même chemin et qui aujourd'hui sont arrivés à ce qu'on peut dire l'aisance entrepreneuriale, parce que nous restons dans l'humilité, mais surtout aussi dans le désir d'apprendre de ces personnes-là. Donc, que ce soit, je ne citerai pas les noms, ils sont tellement nombreux, mais tous ces aînés-là, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles à apprendre, réapprendre et même désapprendre pour apprendre de nouveau.
Merci. Ah, je pense que vous êtes sur le bon chemin pour devenir de grands industriels dans quelques années, sait-on jamais. Merci beaucoup, M. Camois,
voilà,
d'être venu nous parler de ce beau projet pour la préservation de l'environnement. Voilà, nous, une fois de plus, on va marquer une petite pause et puis quand on revient, ce sera direction le marché.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.